Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Content de vous retrouver, merci d'être avec nous sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain. Et nous sommes avec notre deuxième émission avec le collectif Je veux mon AESH du Fousseret. On a déjà parlé d'une première émission avec l'association AP10 sur ce qu'étaient des enfants 10, alors 10 multi-10, dyslexie, dysphasique, dysorthographique, etc. Parce que, comme on l'a vu lors de l'émission précédente, c'est que un malheur n'arrive jamais seul, j'allais dire. C'est-à-dire que souvent, on a plusieurs dysfonctionnements chez les enfants lorsqu'on le découvre. Et je suis actuellement ici à Rieux avec deux mamans qui ont été, qui sont confrontées au quotidien avec chacune d'elles un enfant qui comprend ces dysfonctionnements. Et on va en parler ensemble. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de comment on le vit à l'intérieur. Comment, à l'intérieur d'une famille, ça se vit cette différence de normalité avec les autres enfants et avec les autres membres de la famille. Donc, je suis avec Magali. Bonjour, Magali.
Bonjour.
Et je suis avec Laurence. Bonjour, Laurence.
Bonjour.
Toutes les deux, vous avez donc des enfants et dont l'un au moins est 10 quelque chose.
Oui, c'est ça.
Alors, Magali, vous, on va commencer par vous. Magali, vous avez combien d'enfants?
J'ai deux enfants.
Et alors, ils ont quel âge?
J'ai le plus petit qui a 10 ans. Et le plus grand qui va faire 14.
Et vous avez découvert que sur ces deux enfants, vous avez un enfant qui n'était pas tout à fait comme les autres, on va dire.
Oui, j'ai l'aîné qui est dyslexique, dysorthographique.
Dyslexique, dysorthographique, c'est-à-dire concrètement, ça se manifeste comment?
Alors ça se manifeste, il a des grosses difficultés à la lecture et à l'écriture en fait. Il n'arrive pas à associer les sons avec les mots et les syllabes.
Et vous, Laurence?
Alors, moi, j'ai deux enfants, donc l'aîné qui a 13 ans et la dernière qui a 4 ans et demi. Et donc, c'est l'aîné donc qui présente des troubles d'apprentissage et notamment la dysphasie, principalement.
Alors, dysphasie, ça veut dire quoi?
Alors, principalement, c'est des difficultés sur la compréhension écrite, mais aussi orale. Donc, par exemple, sur la compréhension d'un texte plus ou moins long, voilà, c'est savoir synthétiser, savoir de quoi ça parle, voilà.
Magali, vous en êtes aperçue comment de la dyslexie de votre enfant?
Alors nous, on s'en est rendu compte en CP, lors des premiers apprentissages pour la lecture. L'institutrice nous a tout de suite alerté sur le fait qu'elle n'arrivait pas à avoir d'associer les mots avec les syllabes comme le faisaient les autres enfants.
Vous dites dès le début, c'est dès le début?
Dès le début de l'apprentissage à la lecture, oui.
En maternelle, il s'est rien passé?
Alors en maternelle, c'est compliqué, ils commencent déjà à avoir la lecture. C'était plus sur la maternelle des problèmes de comportement, mais qui devaient déjà être liés, je pense.
Et vous, Laurence?
Alors nous, on s'en est aperçu dès la maternelle, dès la petite section, où effectivement, voilà, il présentait des problèmes de comportement aussi. Donc on me disait, il n'est pas dans le moule. Voilà.
Les problèmes de comportement, c'est quoi? C'était des absences, j'allais dire, de concentration, de...
C'est ça, voilà. Il avait du mal à écouter peut-être ce qu'on lui demandait, à comprendre les consignes. Et puis en fait, en poursuivant sa scolarité, c'est à l'entrée en CE1 où effectivement, quand ils ont commencé à aborder les mathématiques, un gros, gros blocage et impossible de faire une simple addition, 7 plus 3 par exemple. Donc là, voilà, tout s'est enchaîné et on a compris, on a mis le doigt sur sa dysphasie étonnamment. Mais voilà, c'est le début en fait du parcours.
Et toutes les deux, quand vous avez découvert, quand vous avez appris, quand on vous a dit ça, comment ça s'est passé à l'intérieur de vous, Magali?
Alors moi, j'ai ressenti une forte culpabilité au début. Alors c'était une culpabilité inconsciente, hein, parce que je savais que c'était pas ma faute à proprement dit, mais en tant que maman, je culpabilisais beaucoup là-dessus. Et puis cette culpabilité a fini par se digérer toute seule et se transformer un autre chose qui a fait que j'ai commencé à me battre pour lui, en fait.
Et vous, Laurence, c'est aussi la même chose, c'est de l'extérieur qu'on vous l'a annoncé, c'est les enseignants qui vous l'ont annoncé. À l'intérieur, on voit rien de différent par rapport à...
Ah non, du tout. Après, mon enfant, voilà, il a toujours été très sociable, avec les autres enfants, même au niveau moteur, enfin, je veux dire, on ne peut pas s'en apercevoir. Donc, c'est vraiment à l'apprentissage, dans les cours qui sont donnés. Et après, c'est vrai que bon, moi, au tout début, je l'ai pris un peu, comme je dis, un peu sur le déni, un peu de mal à l'accepter, à me dire bon, ben ça peut se rééduquer, il y a des choses à faire, mais bon, je voyais pas ça comme très très handicapant, on va dire. Et puis c'est dès l'entrée en sixième où là je me suis aperçue effectivement que là il y avait un grand fossé quoi entre le primaire où il était quand même assez bien suivi entre les séances en libéral qu'il pouvait avoir et le suivi à l'intérieur de l'école primaire. C'est vraiment son entrée en sixième qui a fait un peu m'a fait réagir vraiment sur ses difficultés et vraiment qu'il avait besoin d'un peu plus.
Et à part le déni pour vous, ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ça, c'était de la colère, c'était de
la culpabilité aussi un petit peu, à me dire qu'est-ce que je pourrais, enfin voilà, après tout en sachant pareil que c'est pas entièrement de ma faute, mais bon, j'ai essayé de comprendre d'où ça pouvait provenir, pourquoi, et puis bon, après comme Magali, on digère et puis après c'est se battre quoi, hein, carrément, donc c'est trouver des solutions et faire en sorte que votre enfant évolue tout comme les autres et à faire une scolarité tout à fait normale.
Oui, parce que quand on parle de culpabilité, on peut la comprendre parce que ces dysfonctionnements, je l'appelle comme ça parce que c'est le terme générique, c'est quelque chose qui est héréditaire.
Oui.
C'est inscrit dans la signature génétique de l'individu, quoi.
Tout à fait. C'est ce que les études laissent croire, en tout cas. Oui.
Ouais. Et alors, si on remonte un petit peu dans vos histoires personnelles, familiales, est-ce qu'il y a déjà eu des cas que vous avez pu identifier, vous, dans vos familles?
Alors moi, personnellement, même moi, des fois, je me demande s'il faut... Bon, on n'était pas forcément diagnostiqué à notre âge, très jeune. Peut-être que moi, effectivement, je peux me rendre compte des fois des petits comportements que je peux avoir. Je me demande si j'ai pas aussi des tendances 10, quoi, hein. Après, bon, à creuser, mais tout aussi bien.
Mais ça ne vous a pas empêché d'évoluer et d'être ce que vous êtes aujourd'hui?
Non, j'ai un travail, je suis autonome, je prends mes responsabilités, non, mais bien sûr. Après,
je pense qu'il y a des degrés aussi de dysfonctionnement, en fait. Hein,
aussi.
Et certaines fois, c'est des degrés où ça passe, et d'autres, ça ne passe plus.
Il y a des choses qui sont camouflables, entre guillemets, c'est ça
oui. Oui, c'est ça, tout à fait.
Bon, vous, alors, première chose, vous l'avez appris, ça vous a fait un choc, bien d'entendre. Au niveau du couple, que ça se passe comment dans ces cas-là? Vous l'apprenez ensemble, chacun de votre côté, comment c'est vécu?
Ben, on l'apprend ensemble, forcément, puisque c'est à la suite de nombreux bilans, souvent. Et on est tous des êtres humains, quoi, donc on encaisse la nouvelle... chacun différemment et avec son vécu et son ressenti personnel. Donc oui, dans le couple, ça a été, enfin pour ma part, ça a été un peu vécu différemment. Moi, j'ai ressenti la culpabilité et le papa, lui, il a été plutôt dans le déni en fait de l'incompréhension d'abord et après dans le déni. Je pense qu'il comprenait pas vraiment ce qui se passait, il comprenait pas ce qui arrivait à son fils et ce qui nous arrivait à nous, en fait.
C'est ça, parce que c'est vraiment toute la famille qui est touchée à ce niveau-là.
Ah oui, complètement, oui.
Et vis-à-vis de la famille au sens large du terme, cette fois-ci, les parents, grands-parents, frères, sœurs, c'est perçu comment ça, est-ce que c'est quelque chose où vous vous sentez soutenu? Ou c'est au contraire en disant c'est une incompréhension aussi de la part de l'extérieur?
Soutenu, oui. Après, j'ai envie de dire, ils vivent pas avec nous au quotidien dans la maison, donc ils peuvent comprendre, mais sans forcément réellement comprendre, parce que bon, ben, je pense qu'il faut le vivre vraiment aussi à l'intérieur de la maison et être en direct avec les personnes. Donc, ils peuvent comprendre, mais bon, après, est-ce que...
Ma question, je vais la poser un peu différemment parce que j'imagine que même vous, à un moment donné, avant d'avoir été, d'avoir reçu le diagnostic sur l'état de votre enfant, ça a dû vous créer de l'incompréhension et une certaine forme même de colère en disant mais c'est pas possible, il comprend pas, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout là, c'est quand même simple ce truc et il comprend toujours pas. Alors j'imagine que chez vous aussi, donc, comme chez les autres, il y a dû avoir à un certain moment une certaine forme d'incompréhension.
D'accord. Oui, oui, complètement. En fait, ces enfants, en fait, sont souvent perçus comme des enfants qui font pas d'efforts, des enfants feignants, qui ont pas envie de se donner la peine d'essayer de comprendre seulement. Mais c'est pas du tout ça en vrai. Et c'est vrai que de l'extérieur, comme c'est assez nouveau finalement ces histoires de 10, c'est assez récent. À l'époque de nos parents, on n'en parlait pas du tout. Pendant notre jeunesse à nous, on n'en parlait pas du tout non plus. Donc il faut faire beaucoup de pédagogie avec la famille en fait, énormément.
J'imagine que des fois les grands-parents, ça doit les énerver aussi de faire un truc et dire bah, c'est pas possible, attends.
Il n'a pas compris.
Alors moi mes parents sont enseignants, donc ils ont quand même assez bien assimilé la chose rapidement, oui, quand même, ça va.
Et vis-à-vis de leurs camarades à l'école, comment ça se passe pour les enfants ?
Alors moi, c'est vrai qu'au primaire, franchement, génial, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, pas de différence. Enfin, même que, voilà, mon fils aîné avait une AESH en permanence hein, à l'école primaire. Les autres camarades... Bon, ben voilà, c'est comme ça, hein. Ils se posaient même pas la question entre eux. Par contre, dès la sixième, là, c'est limite le mien. Voilà, dès la sixième, il avait eu une AESH, il faisait style qu'il n'en avait pas besoin, vous voyez. Pour le regard des autres, c'était très, très... Enfin, c'est toujours très compliqué. Mmh. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'ils vont vers un âge de préadolescence et donc...
Comme on dit, le mauvais âge.
Là, oui.
Oui.
Et pour vous, Magali, pour votre aîné, là ?
Alors, moi, il a été... j'ai dû le changer d'école quand le diagnostic a été fait. Il a intégré une classe d'Ulysse. Donc,
c'est quoi ces classes d'Ulysse ?
C'est des classes spécialisées pour les enfants en situation de handicap.
Alors, je vous coupe deux secondes. C'est important ce qu'on vient de dire là. C'est reconnu comme un handicap.
Oui. Oui, oui. Complètement.
Donc ça veut donc dire c'est quelque chose qui est donc qui pathologie handicapante. Je sais pas le mot pathologie n'est pas juste, mais qui est un handicap qui fait que il nécessite un support extérieur.
Oui. Nos enfants sont considérés comme des enfants handicapés.
Après avec des niveaux différents évidemment, c'est pas forcément un handicap moteur, mais il y a une différence par rapport aux autres quoi.
Oui c'est ça.
Donc je vous ai coupé, pardon.
Donc il a intégré la classe d'Ulysse. Donc pour lui, ça a été une charge émotionnelle assez importante parce qu'il a dû changer d'école, se couper de ses amis. Donc il a eu énormément de mal à accepter déjà le diagnostic à la base. Et puis énormément de mal à se dire qu'il allait changer d'environnement totalement. Donc ça a été double peine un petit peu pour lui. Et finalement, ça lui a fait du bien et il l'a compris assez rapidement. Donc le regard des autres par rapport à ça, au primaire, comme Laurent, c'est pareil, ça se passait très très bien. Il n'y avait pas vraiment de regard des autres enfants. Il y avait beaucoup de pédagogie déjà dans l'école avec la classe d'Ulysse, donc voilà. Par contre, au collège, après, effectivement, l'entrée dans l'adolescence, c'est compliqué. On veut être comme les autres à leur âge, on veut rentrer dans le moule, et c'est normal. Et parfois, c'est pesant de devoir être différent.
Est-ce qu'il y a des... Alors, on parlait des classes Ulysse, ça, c'est à l'école primaire. Est-ce qu'il y a des classes dans les collèges spécifiques ?
Oui, c'est pareil.
Ça s'appelle Ulysse aussi ?
Oui, c'est pareil.
Et il y en a dans la région ?
Oui, on en a une au Fousseret.
Et alors, qu'est-ce qui fait que vos enfants vont dans ces écoles-là ou pas ?
Alors, c'est dans les classes Ulysse sont intégrées dans des écoles classiques, en fait. C'est des écoles primaires et des collèges classiques. Ils ont juste, en fait, c'est une classe dans laquelle ils suivent les enseignements qu'ils ne peuvent pas suivre en cours avec les autres enfants. Et ensuite, ils ont quand même une classe attitrée de collège, de collégiens, où ils suivent les autres enseignements, où ils n'ont pas de difficultés.
Quelquefois, ils sont mis à côté pour des enseignements spécifiques.
C'est ça, tout à fait.
Quand vous avez appris, donc, vous avez appris ça, la famille est au courant, à l'école, machin, mais vous me disiez tout à l'heure aussi, Magali, eux, vos enfants, lorsqu'ils ont appris ça, lorsqu'on les a étiquetés comme ça, quelle a été leur réaction ?
Alors moi, il a eu un déni très très important, qui a dû être travaillé au centre médico-psychologique de Carbone avec des intervenants de l'hôpital public. Parce que les questions qu'il avait, en fait, c'était pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi je suis différent et pourquoi chez moi ça marche pas alors que chez les autres ça marche. Ça a été très très long, ça a duré des années et là, ça fait 3-4 ans qu'il travaille dessus et que ça commence juste à aller mieux maintenant, en fait.
Et il en a 13, hein, c'est ça?
Oui.
Et vous, Laurence, quand il a, lui, là, quand il a votre fils, a appris, enfin, quand on lui a dit, voilà.
Alors, moi, c'est pareil, une charge émotionnelle assez importante, à se dire pourquoi je comprends pas, comme les autres, qu'est-ce qui fait que, étonnamment, il est surpris sur des choses, que voilà, peut-être des fois un peu plus compliqué, qu'il arrive à mieux comprendre que d'autres, donc voilà, c'est complètement aléatoire, quoi, hein. Mais c'est vrai que il se dit pourquoi moi j'ai droit à une AESH, les autres non, voilà, c'est un peu la colère, un sentiment de colère, de...
Il y a de la révolte, c'est ça.
Un peu de révolte, oui, oui, beaucoup. Chez moi, oui, c'est plus à travers ça. Après, il est quand même, voilà, quand le matin, il rechigne pas d'aller au collège, il y va de bon cœur, hein, il y a pas de souci, il m'a jamais fait à dire non, je veux pas y aller, je veux rester à la maison, non. Mais c'est vrai qu'après, il a une charge émotionnelle,
Il prend sur lui aussi.
Il prend sur lui aussi, oui, complètement.
Oui, c'est vrai que la colère, moi aussi, je l'ai eu.
De la colère.
J'ai eu droit, oui, beaucoup d'opposition pendant. Ouais.
C'est à ça, votre avis, est-ce que c'est ça qui gère l'agressivité qu'ils peuvent ressentir des fois au niveau de la classe ?
Moi, je pense, parce que c'est vrai que jusque-là, c'était un garçon qui était quand même assez respectueux, même des adultes et tout. Et là, je vois quand même qu'il change et je pense que tout est lié, quoi. Il a du mal à accepter.
Bon, il devient ado quand même.
Et il devient ado aussi. Donc, voilà. Donc, mais bon, après, c'est vrai que on essaye de le rassurer, de lui dire que voilà, on essaie de relativiser. Voilà, il faut se dire que bon, ben, lui, il a ça, mais peut-être que quelqu'un d'autre a autre chose, et que bon, ben, on va s'en sortir, quoi. Il faut aussi garder espoir et sur ce qu'il voudra faire plus tard, et ben que voilà, il va sûrement y arriver. On mettra tous les moyens en place pour y arriver aussi.
C'est ça, parce que c'est un petit peu aussi la chose qui est différente, c'est-à-dire que ils ne sont pas comme les autres. Je mets encore une des guillemets à comme les autres, mais ils ont peut-être des talents personnels qui sont. Vous me disiez tout à l'heure, lorsqu'on a préparé l'émission, Laurence, que votre garçon, par exemple, lui, le foot, c'est son truc.
C'est ça. Après, c'est vrai que lui, après aussi, dès son plus jeune âge, il avait, comme je dis, le ballon rond à côté de lui. Et il s'est orienté vers cette passion aussi tout seul pour compenser aussi ses propres difficultés, qui, je suis sûre, dont il en est conscient. Et donc, effectivement, le sport, c'est très bien aussi pour lui. Ça permet de le défouler, de...
Non, il y a ça, mais ce qui m'intéresse là-dedans, quand je me pose cette question-là, c'est que dans le foot, quand on joue à un certain niveau, dans un club même à 13 ans, il y a des consignes, il y a des objectifs, il y a des règles du jeu, et là, il n'a pas de problème de compréhension.
Là, non. Mais, oui, étonnamment, il n'a pas de difficulté de compréhension. Bon, après... ça reste, les consignes sont peut-être plus...
Oui, non, sont peut-être plus adaptées.
Adaptées pour lui, oui, tout à fait.
Quand on est passionné, ça fait beaucoup aussi, hein.
Et quand ils sont à la maison, en dehors de la classe, quelles sont leurs occupations?
Moi, c'est beaucoup les jeux vidéo, le mien.
Moi aussi.
Et à votre avis, pourquoi?
Moi, je pense qu'à travers ça, ils trouvent une... Après, le mien, je sais qu'il est tout le temps en quête de reconnaissance.
Oui,
voilà, c'est un enfant qui demande toujours à être valorisé, revalorisé. Enfin, voilà, tout ce qu'il fait, il faudrait lui dire c'est bien en permanence. Quoi.
Bah, c'est intéressant, parce que c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la colère, la culpabilité, parce que je pense qu'eux doivent culpabiliser aussi.
Oui, aussi,
beaucoup,
oui, bien sûr.
Voyez. Et donc, le fait de se sentir quelque part, entre guillemets, aimé.
C'est ça.
Oui,
c'est ça.
Et puis, aux jeux vidéo, on est derrière un écran.
C'est ça.
On ne voit pas vraiment les gens en face. On peut paraître normal, en fait.
C'est ça.
Entre guillemets aussi. Mais,
Voir meilleur.
Voir meilleur. C'est vrai. Donc, ça y fait aussi beaucoup, je pense. Oui.
Ah oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez trouvé que c'était facile pour vous, lorsque vous avez découvert le dysfonctionnement de vos enfants, quand vous avez réagi, de trouver les personnes adéquates pour pouvoir répondre à vos questions, pour pouvoir trouver des solutions?
Voilà. Non, ça a été un long parcours du combattant, mon Dieu. Enfin, je ne sais pas pour Laurence,
pareil,
mais...
Idem.
Mais oui, c'est très, très compliqué. Et parfois même, il faut se fâcher pour qu'on puisse avoir accès aux informations, quoi.
Et c'est auprès de qui?
Alors moi, pour mon cas, je me suis fâchée à l'école lors d'une réunion pédagogique, en fait, où on m'annonce qu'on ne peut pas garder dans l'école parce qu'on ne sait pas s'occuper de lui. Et j'ai fait oui, d'accord, mais vous proposez quoi, en fait? Parce que moi, je sais pas quoi faire de lui, quoi. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir une enseignante en face de moi qui connaissait déjà ces problèmes-là et qui m'a orientée vers la MDPH, le CMP
et
les classes d'Ulysse, quoi.
MDPH, CMP... Parlez-moi français, s'il vous plaît.
Alors, la MDPH, c'est la maison du handicap, hein, chez qui il faut faire tous les dossiers qu'on adore faire, d'ailleurs. Et le CMP, c'est le centre médico-psychologique qui peut suivre les enfants en situation de handicap. Et puis, les classes d'Ulysse, on en a parlé tout à l'heure.
Ouais, et donc, pour vous, Laurence, aussi, ça a été compliqué de savoir quoi faire une fois qu'on a appris la nouvelle. Parce qu'on se retrouve, j'imagine, très seul.
C'est ça. Donc, autour de moi, bon, moi, j'ai une voisine, une maman qui a son fils qui est autiste, bon, qui est plus jeune, dont son fils est plus jeune que le mien. Mais, donc, elle m'a donné des conseils aussi sur ce que je devais faire ou vers les personnes vers lesquelles je pouvais me diriger. Mais, c'est vrai que depuis le début, ça a été un parcours du combattant pour savoir, que faire. Et puis bon, après, comme je dis, pas nécessairement au primaire, parce que j'avais l'impression que c'était bien cadré et bien suivi. On a un neuropédiatre aussi qui nous suit annuellement, qui me donne des conseils aussi. Mais c'est vrai... C'est à l'entrée, vraiment, au collège, où ça a été, pour nous, j'avais l'impression que c'était...
Et vous avez trouvé de l'aide quelque part?
Ben, en rencontrant, je pense aussi, les mamans qui sont concernées aussi par notre collectif. Et oui, j'ai l'impression... Enfin, voilà, je me sens moins seule, on va dire. Moins seule sur les difficultés qu'on peut rencontrer et qui je vois sont les mêmes un peu partout, quoi.
Et au quotidien, dans la vie de tous les jours, à la maison, lorsqu'il n'y a pas l'école, c'est quoi le plus difficile?
Le plus difficile, moi j'ai pas de difficultés particulières avec mon fils, c'est quand même... il est facile à vivre, c'est quand même un gentil garçon, il n'y a pas de soucis. Après, la difficulté au quotidien pour le mien, c'est surtout la lecture des documents, quoi. Et c'est la difficulté qu'il aura pour toujours, je pense, qui s'améliore quand même au fil du temps un peu, mais quand il sera adulte, ça sera la même galère pour lui. que à l'heure actuelle, je pense.
Ça, c'est sa difficulté à lui.
C'est sa difficulté.
Mais moi, ma question, c'est votre difficulté au niveau de la famille, au niveau peut-être du regard des autres. C'est quoi le plus difficile quand vous êtes en famille avec au quotidien?
Moi, c'est la mise au devoir. Parce que bon, c'est vrai que je veux quand même être. Il me dit voilà, je fais seul parce que voilà, il fait style qu'il a besoin de personne et qu'il veut y arriver seul. Mais bon. Voilà. Alors après, c'est vrai que j'essaye de l'aider et de l'aider sur cette mise au devoir et qu'il veut pas forcément parce que il veut pas non plus nous montrer qu'il a des difficultés. Enfin voilà, il est un peu aussi dans le truc. Laissez-moi. Je veux faire seul, quoi. Je veux faire seul. Alors bon, c'est vrai que voilà, nous on a un peu cette difficulté là. En période scolaire, quoi, parce que c'est vrai que moi, je garde quand même un œil, voir s'il a correctement fait, c'est une chose, mais au moins s'il a tout fait au niveau des devoirs qui étaient demandés, par exemple. Voilà.
Après, plus globalement, pour le regard des autres, j'ai étrangement, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait de soucis avec ça, bien au contraire. Moi, je fais beaucoup de pédagogie, en fait, que ce soit vis-à-vis de ma famille ou vis-à-vis de mon entourage, parce que les gens ne comprennent pas. Et ils sont souvent très curieux de savoir. Et j'ai même, dans ma propre famille, ma cousine qui est venue me voir, parce que son fils est probablement également dyslexique, hein, est venue me demander des informations. Donc c'est plutôt bienveillant, en fait. C'est plutôt dans la pédagogie et pas un regard pesant comme on pourrait l'imaginer, quoi.
Donc vous pensez toutes les deux que avoir accès à un collectif, un regroupement de personnes qui vivent la même chose, c'est important.
Oui, moi je trouve que c'est bien de partager autour de ça, dans la bienveillance avec d'autres gens qui vivent la même situation que nous. Enfin, moi je m'étais jamais intéressée à tout ça. J'ai toujours voulu faire les choses toute seule et comme une grande, mais c'est vrai que c'était un grand soulagement quand même de voir que d'autres personnes vivaient la même chose.
Laurence?
Oui, c'est enrichissant et puis bon, ça permet aussi de faire de belles rencontres, je pense. Et enfin, moi, c'est vrai que depuis que j'ai rencontré ses mamans, je l'ai vécu un peu de me dire enfin quoi. Enfin voilà, j'ai eu l'impression que le Schmidbeek allait peut-être avancer, quoi, hein, par rapport à notre problématique. Peut-être, à plusieurs, on a peut-être un peu plus de force aussi. Et du coup, c'est bien.
Chacune d'entre vous, si vous aviez un message à faire passer, ce serait lequel?
Oula, oh, je suis un peu prise de court, moi. moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on nous parle d'inclusion beaucoup dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On fait valoir... alors, est-ce que c'est pour faire bien? Je sais pas, mais on fait valoir l'inclusion des personnes handicapées dans tous les milieux, que ce soit le milieu professionnel, le milieu scolaire, les milieux en général. Mais dans la vraie vie et dans la pratique, c'est pas le cas, en fait. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que il faut quand même prendre en compte tous ces gens qui ont des difficultés, qui rentrent pas dans le moule. Et il faut savoir aussi les aider dès le plus jeune âge pour qu'ils se sentent bien dans notre société. Parce que ce qui peut se passer en milieu scolaire, ça forge quand même les adultes de demain. Et si on n'a pas les compétences et les moyens de les aider, eh bien, que vont être les adultes de demain, justement?
Et vous, Laurence, s'il y avait un message à faire passer, ce serait lequel?
Par rapport aux familles qui sont aussi dans la même situation, pour lesquelles un enfant est diagnostiqué avec des troubles d'apprentissage, le message, c'est de dire que ils sont pas seuls et que s'ils cherchent un peu autour d'eux, d'où l'importance de peut-être créer un collectif, que ils peuvent s'adresser à des personnes comme nous ou des associations qui existent et qui sont là aussi pour nous aider, parce qu'effectivement quand on nous pose le diagnostic, effectivement, c'est par des bilans et bon, les spécialistes, voilà, et voilà, on nous pose un bilan, mais bon, qu'est-ce qu'on fait derrière, on ne sait pas trop, quoi. Donc, vous ne sentez pas seul, y aura toujours, voilà, d'autres personnes qui vous guideront, quoi.
Moi, je vais rajouter un message. C'est celui qu'on a. Je vais répéter en fait celui qu'on a dit la dernière fois. C'est que pour tout le monde, sachez que les enfants ne le font pas exprès. Sachez que les enfants, en fait, quand ils font, c'est pas, ils ne font pas exprès de ne pas apprendre. Ils ne font pas exprès de ne pas comprendre. Au contraire, ça les handicap plutôt qu'autre chose. C'est qu'ils ne le font pas exprès.
Oui, c'est vrai. C'est ça.
Oui, aussi. C'est le message fort aussi à passer. Oui, bien sûr. C'est ça. Ouais.
Mesdames, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous sur Radio Galaxie pour essayer de faire comprendre aux autres parents quelle était la vie un peu parfois compliquée de parents qui ont des enfants 10, qui ont un dysfonctionnement, et il peut être simple ou multiple, et en espérant que ça peut rassurer certaines personnes et que ça peut leur donner aussi des conseils. Tout le conseil qu'on peut donner, c'est rapprochez-vous peut-être d'un collectif, d'une association, pour vous serez moins seul et peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez peut-être, si pas des réponses, au moins un soutien de la part de l'extérieur. Merci beaucoup et
merci.
À très bientôt.
Merci.
Il y en avait du vent dans cette tête en friche. Le maître, le servant, le chasseur et la biche. Ce relayé profane, le berceau de mon crâne. À grands coups de butoir, inculquent leurs histoires. De règles en copie, de margent théorème. Du jacassement des pies aux branches du barème. Ils mirent les moyens, je finis par les croire. Vénérable doyen, que j'avais dû savoir. Pourtant, quand vient le soir, je redeviens l'ignare. On n'apprend pas des livres à vivre. Quelques douces promesses pour adoucir les corps. Les bonnets de la naisse pour bien tenir le mort. Pour couper l'horizon, on planta une clôture. Autour de la raison, on fit une bordure. De notes en mesure, de blâme en classement. Projeté en pâture au fond du jugement. On s'est donné du mal pour briser, détruire la force originale qui rêvait de jaillir. Alors, quand vient le soir, je redeviens l'ignare. On n'apprend pas des livres à vivre. Ainsi, lorsque plongé dans les bras du réel, sans règles, sans cahier, sans ligne, sans modèle, remonte cette angoisse nichée au fond du bide, l'enfance faisant place à ses premières rides. Et cette voix si douce et pourtant si cruelle, qui en ses bras me pousse à me mettre à nu, elle semble venir me dire comme pour me hanter.
Ainsi donc de l'amour, c'est tout ce que tu sais.
Cette voix encore et cette voix toujours, c'est elle qui me mord à chaque carrefour. Lorsque l'inattendu bondit avec défiance à la gorge tendue de mon inexpérience. Et chaque fois alors c'est la même rengaine, les pardons que j'implore, les regrets que je traîne. Des sourires, des naissances, aux larmes des défunts, je déplore l'impuissance de ne comprendre rien. Alors, quand vient le soir, je devient l'ignare. On n'apprend pas des livres à vivre alors quand vient le soir. Je redeviens l'ignare. On n'apprend pas des livres à vivre